le premier déclencheur, il va être environnemental, forestier. À ça, on dit, bah, soit vous avez par défaut un modèle qui vous est proposé, qui est le don, qui est très bien, soit nous, on a dit, bah, on peut aller plus loin en disant, bah, pourquoi pas récompenser, valoriser celui qui finance.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Baudouin Verken. Bonjour Baudouin.
Bonjour Brieux.
Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. On va retracer un petit peu ton parcours, d'autant plus que je pense que tu as pas mal de choses à nous raconter assez intéressantes. Est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ton parcours?
Alors Baudouin, 34 ans. Moi j'ai fait un profil école de commerce, quoi. J'ai fait une formation école de commerce. Et j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu du conseil, et plus particulièrement sur des problématiques IT auprès du secteur financier, banque, assurance et un peu d'industrie. Voilà. Mais j'avais toujours en tête depuis l'école de créer, d'être entrepreneur et de réfléchir aussi à apporter un projet qui avait du sens. Donc bon, pendant des années, j'ai œuvré dans le conseil, et avec des amis d'enfance, on s'est reposé cette question de l'entrepreneuriat. Et en se reposant cette question-là, on a commencé à dire, voilà, il faut formaliser les choses, il faut qu'une idée puisse se transformer en projet. Et c'est à partir de ce moment-là, on a commencé à penser écoterie pour qu'il puisse un jour naître et exister.
D'accord. Et pour affiner un petit peu ce concept de ton parcours, donc grosso modo, si je me souviens bien, tu as été diplômé il y a une bonne dizaine d'années.
Oui, exactement.
Et puis après, tu as fait quelques années de consulting.
Dans le conseil, exactement.
Et donc, écoterie, le début de l'aventure, c'est quoi? C'est 2014?
C'est 2014 où, justement, de cette idée, on commence à la structurer en mode projet, où forcément, le prérequis, c'est commencer à déposer... à créer l'entreprise, à apporter des sujets qui sont autour du juridique, du fiscal, du légal de manière générale, à comprendre comment on va pouvoir déployer une offre et un service, commencer voilà à sentir, à préparer tout le terrain, sans mauvais jeu de mots. Et donc ça a mis 2 ans.
Ok. Et justement, avant que tu nous présentes plus en détail Écoterie, est-ce que tu peux nous présenter peut-être rapidement Théophane et Alban, qui t'a créé Écoterie finalement?
Alors, Théophane, lui, il vient du monde aussi de l'entreprise.
Ouais.
Il a une formation, lui, plus de juriste, et qu'il a complété aussi avec une formation business. Et l'autre cofondateur, c'est Erwan.
Ah, ok, pardon. Alors, ça, c'est mes recherches qui n'étaient pas bonnes.
Donc, Erwan, qui, lui, vient du monde, qui est ingénieur de formation et qui vient du monde de la banque. Voilà.
Ok. Donc, c'est bien, c'est qu'au niveau des compétences, vous aviez déjà une certaine complémentarité.
Exactement. Et le quatrième mousquetaire, c'est Vianney, qui, lui, a un profil forestier et qui, lui, a été le premier de nous quatre, en fait, à s'être reconverti dans la forêt en quittant son job. Et lui, il a monté pendant des années une structure où il faisait des travaux de l'exploitation forestière.
D'accord, ok.
Et en fait, c'est cette réunification de ces différents profils où on s'est dit, Vianney, lui, il connaît la forêt. Il a été le premier à se consacrer à son métier de passion puisqu'il a monté une structure de forestier. Et nous, on s'est dit, les autres, on était tentés par l'entrepreneuriat. On voyait Vianney, comment il en est arrivé là, son cheminement. Et nous, on s'est dit, à l'heure du digital, à beaucoup de problématiques, on peut apporter des solutions. Et du coup, tout l'enjeu a été de réfléchir comment on pouvait mettre en place Écoterie à travers la compétence forestière de Vianney et par rapport à une couche nécessaire aujourd'hui qui est le digital et avec un modèle économique derrière, parce que s'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de pérennité, donc on n'existe pas, le projet n'existe pas et on ne peut pas faire.
Mais alors, vous avez l'air assez proche tous les cas, enfin, vous connaissez depuis que vous étiez tout petit ou...
Oui. Alors moi, je connaissais Erwan et Théo d'enfance.
Ok.
Et Vianney connaissait Erwan l'enfance aussi. Donc en fait, c'est retrouvé.
C'est une bonne réunification, quoi.
Exactement.
Excellent. Et donc justement, est-ce que tu peux nous présenter en détail ce que fait Ecotree aujourd'hui?
Alors nous, Ecotree, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'en France, la forêt française a une spécificité, c'est qu'aujourd'hui, elle a besoin d'être renouvelée et elle a besoin d'être mieux gérée durablement. Voilà. Puisque géographiquement, sur le territoire français, la surface des forêts en France, depuis maintenant plus de 200 ans, croît, mais tout l'enjeu est de la rendre qualitative. Voilà. Donc, gestion des forêts.
Et alors justement, peut-être insister sur... Qu'est-ce qu'on entend par une gestion qualitative par rapport à une gestion quantitative? Quels sont les apports en fait différents des deux modes de croissance finalement?
Alors, des deux modes de croissance, c'est de permettre justement à ce qu'il y ait des forestiers qui soient présents sur le terrain en forêt pour permettre justement à des forêts qu'elles soient, un, bien gérées et qu'elles soient mises en place des itinéraires sylvicoles, des plans de gestion forestiers, tout le travail finalement du forestier.
D'accord. Et dis-moi si je me trompe, mais on parle de parfois plusieurs, jusqu'à 40 000 hectares par an de nouvelles forêts en France.
Alors la métrique précise, je ne l'ai pas.
Ouais.
Je ne saurais pas te dire
okay.
Précisément le chiffre, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est en extension. Et justement, tout l'enjeu, c'est face à cette extension, c'est d'œuvrer pour son bon renouvellement. Parce que s'étendre pour s'étendre. Si tu es sur du taillis pauvre, c'est des puits de carbone négatifs.
Tout à fait. Ouais.
Donc tout l'enjeu, c'est de mettre en place sur ces extensions de l'apport forestier, du savoir-faire forestier, et de faire venir en forêt, sur ces forêts-là, justement des forestiers qui soient en capacité d'apporter le mieux pour le milieu, le massif en question.
Ouais, et puis de régénérer aussi la biodiversité sur place.
Exactement.
Une certaine diversité d'arbres, ça veut dire que tu auras aussi une meilleure diversité peut-être de faune et flore.
C'est forcément lié. La façon dont tu gères ta forêt va avoir en impact les enjeux de biodiversité dans le milieu.
Mm-hmm.
Donc mieux tu gères ta forêt, plus tu as une sylviculture avec une approche de régénération naturelle, par exemple, de diversification des essences, de diversification des classes d'âge, plus tu crées un lieu riche pour accueillir la biodiversité.
Et justement, donc ça, tu nous l'as présenté dans les grandes lignes. Et dans les faits, qu'est-ce que Ecotree propose aujourd'hui?
Et nous, aujourd'hui, on a un modèle qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et nous, notre enjeu, notre mission, c'est de les embarquer au sort de la forêt française et aux enjeux de la forêt française. Et donc, du coup, on leur propose de financer des arbres qui sont plantés dans des massifs en France. Voilà. Et donc l'idée, elle est simple d'apparence, même si elle est techniquement compliquée, puisqu'elle soulève plein de questions juridiques.
Ouais, bien sûr.
C'est on permet à quelqu'un qui achète un arbre d'en être propriétaire, et le jour où cet arbre il sera coupé pour les besoins de la gestion forestière, on lui reverse en retour de l'argent.
Mmh.
Et nous, tout notre modèle permet de nous positionner en amont sur de la reprise et de l'étude de massifs forestiers qui ont justement besoin d'être renouvelé, d'être bien géré.
Donc c'est un positionnement qui est assez particulier parce que vous êtes à la fois un placement financier.
Alors on n'est pas un placement financier.
Non, c'est pas considéré comme tel.
Justement, on n'est pas dans un produit financier.
Ok.
On dit juste, on permet aux gens d'acquérir un bien qui est l'arbre.
Ok.
Et qui va avoir deux vertus. Cet arbre, c'est que dans le temps, il va contribuer à la restauration d'un massif.
Ouais.
Avec tous les impacts environnementaux qu'on connaît, carbone, biodiversité et autres. Et en même temps, il a une dimension économique parce que quand il est bien géré, quand une forêt est bien gérée, elle permet de produire un bois d'œuvre qui, par exemple, se retrouve dans un bois de charpente. Voilà. Et ça, ce bois-là, ça a de la valeur.
Ouais, bien sûr.
Et ça se valorise économiquement.
Mais même si j'entends bien ce que tu dis sur l'aspect argument, il y a quand même un aspect intéressant. Si, enfin, moi, en tant que client, je sais que quand j'achète un arbre, je sais que même si je ne le fais pas pour que ça me rapporte de l'argent dans quelques dizaines d'années, je sais que c'est peut-être aussi... Enfin, tu vois, ce n'est pas juste je fais un don comme il y a beaucoup d'ONG qui pourraient proposer. Je veux dire, il y a une certaine utilité aussi économique, non seulement sur la réutilisation du bois, mais sur le fait que bah, peut-être à terme, je sais que c'est un petit placement et je suis d'accord avec toi, ça va pas être un rendement incroyable, mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est le fait de pouvoir le récupérer à terme finalement.
Exactement. En fait, toute l'idée, c'est qu'il faut voir, c'est que le premier déclencheur, il va être environnemental, forestier. Mm-hmm. Et qu'à ça, on dit, bah, soit vous avez par défaut un modèle qui vous est proposé, qui est le don, qui est très bien, soit nous, on a dit, bah, on peut aller plus loin en disant, bah, pourquoi pas récompenser, valoriser celui qui finance.
Ouais.
Mais sachant que son objectif n'est pas forcément le côté rentable économique. Mais on dit, bah, par défaut, cette performance environnementale, elle va créer une performance économique. Et bah, il nous paraît sain et juste de la redistribuer à celui qui l'a financé. C'est vraiment ça la logique. Mais donc, il faut bien comprendre que c'est un binôme entre environnement, parce que forêt, et une dimension économique où bah, les gens qui financent, ils ont réellement derrière... un actif qui est adossé, un actif arbre. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, donc pour les particuliers, eux, ils sont contents de s'impliquer en fait, sur des forêts françaises qu'ils peuvent voir, qui sont locales. Souvent, on reconnecte les gens à des provinces d'origine où ils ont grandi, habité, qui parfois, bah, du coup, ils ont un peu délaissé parce qu'ils ont dû remonter dans des plus grandes villes pour travailler. Mmh. Et donc, ils sont contents de cet aspect affinitaire et territorial et de cette utilité qu'on produit aussi en forêt. Et aussi, ils s'inscrivent dans cette logique patrimoniale de transmission où ils disent, bah, finalement, on construit pour les générations futures. Et bah, nous, on le fait sur place, donc sur le territoire français. La dimension économique, bien sûr qu'il faut intégrer cette notion long terme, du temps, puisque c'est le principe de la durabilité et du développement durable, c'est que l'échelle de temps, on peut pas la raccourcir et on la raccourcira pas parce qu'on peut pas et qu'on ne veut pas. Et que du coup, c'est vraiment un geste environnemental, un impact économique parce que incorporé dans le modèle écoterie, il y a une dimension économique. Et nous, on a des gens qui s'inscrivent vraiment dans cette logique de je fais pour mes enfants, mes petits-enfants, je suis content de voir le suivi d'un projet qu'Écoterie porte pour nous sur telle parcelle. Et en fait, ça permet de créer une vague d'engagement avec un outil qu'on a mis en place, hein, qui est Écoterie, qui se veut universel parce qu'il est accessible à tous.
Yes.
Et qui démarre dès un arbre, donc dès 15 euros. Donc le modèle est vertueux parce qu'il n'est pas exclusif. Il permet d'embarquer tout le monde. Et surtout, donc, dans ce binôme environnement et économique, le volet économique est aussi important puisque derrière, il y a des impacts. Aujourd'hui, la filière de la forêt-bois en France, c'est un bassin de l'emploi consistant puisque c'est 450 000 emplois.
D'accord. Okay.
Voilà, et c'est des emplois non délocalisables. Donc, c'est parfois des petites structures familiales dont leur métier, c'est de vivre de cette filière.
Mm-hmm.
Donc, il est très important pour tous ces thèmes-là, que ce soit environnement, économique et autres, qu'on propose un modèle, un dispositif, un outil qui permette justement d'intégrer tout ça, de couvrir tout ça et d'agir concrètement sur le terrain.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et juste pour qu'on voit bien aussi tout le schéma de fonctionnement d'Écoterie, donc les gens deviennent propriétaires de l'arbre ou...
Exactement.
Mais l'arbre, il faut bien qu'il soit sur un terrain.
Exactement.
Donc ça, ça fait partie aussi du rôle d'Écoterie d'identifier les terrains, de
Exactement.
Les acquérir.
Notre premier métier, c'est de trouver des parcelles forestières qui vont avoir besoin de notre intervention.
Mmh.
Et donc là, on a plusieurs cas de figure. C'est soit on se porte acquéreur,
ouais,
du terrain, soit on propose un outil d'aide à des propriétaires forestiers avec cette mécanique où on va remettre en état en gros sa parcelle et sur cette parcelle, il va y avoir du bois sur pied qu'on va venir planter et on va permettre en fait à des financeurs de devenir propriétaires d'une partie des arbres qui sont sur cette parcelle. Voilà.
Ok, excellent. J'aimerais aussi qu'on s'arrête sur la méthode aussi que vous avez adoptée pour gérer justement toutes ces forêts. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Alors, oui, nous, on a une équipe forêt, hein, chez Écoterie. Donc, on a des forestiers qui, à chaque fois, vont étudier les projets de reprise. Et tout l'enjeu, à chaque fois qu'on fait un projet de reprise, c'est de savoir quel itinéraire sylvicole on va mettre en place sur cette forêt. Et donc nous, c'est de s'inscrire dans une logique de gestion durable et donc de mettre en place, on va dire, toutes les bonnes pratiques forestières, déjà par la mise en place d'un itinéraire sylvicole ou un plan de gestion hein, derrière, de faire certifier les forêts et surtout de les gérer concrètement. C'est-à-dire que tout est prévu à travers un plan de gestion,
etc. Exactement. Est-ce que dans ces forêts coteries, tu vous imaginez, ou c'est pas du tout d'actualité, peut-être faire des activités complémentaires, genre, je sais pas moi, des visites, des balades?
Alors, on le fait déjà. Ouais. On le fait pour certains clients corporate qui veulent justement suivre ce pourquoi ils ont financé.
Et bien sûr, oui.
Alors, on le fait selon les besoins. On a, nous, le fait que les particuliers le font déjà pour beaucoup d'entre eux d'eux-mêmes, ouais. Puisque sur leur espace client, ils ont la liste de leurs arbres avec les géolocalisations des parcelles. Ouais. Donc, c'est comme ça que nous, l'été dernier, on a eu des concours un peu de selfies de gens qui nous... Non, mais qui étaient en famille. Excellent. Justement, notamment en Bretagne, il y en a eu beaucoup, qui, entre deux semaines de vacances, ont fait un crochet sur leur parcelle avec leurs enfants. Et voilà, nous envoyer une photo en disant merci, bravo pour ce que vous faites, j'ai pu voir la parcelle, je crois que je ne suis pas trop paumé. Et voilà. Donc en fait, les forêts sont ouvertes, quoi. Les gens y vont d'eux-mêmes.
Ah, c'est top ça, ouais, j'y avais pas pensé, mais je pourrais embarquer ma fille, vu qu'elle a déjà quelques dizaines d'arbres à son actif. Mais vous n'irez pas jusqu'à mettre un accrobranche, quoi. On est d'accord, ça reste plutôt...
Non, c'est pas du tout le projet.
On reste sur quelque chose de brut et...
On reste sur de la forêt.
Ouais, voilà.
Mais voilà, on reste dans une logique d'itinéraire sylvicole. C'est un autre métier après de gérer un site avec des parcours d'accrobranche.
Oui, mais j'ai pas dit quoi. Ouais. Une idée qui me venait comme ça.
Je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais clairement, c'est du boulot, c'est un autre métier, c'est limite une autre création d'entreprise. C'est pas dans nos objectifs aujourd'hui.
Et quelles ont été un peu, à tous les quatre, finalement, vos sources d'inspiration? Parce que tu l'as dit. Si je ne me trompe pas, c'est Vianney
ouais.
qui avait, je pense, déjà un sacré savoir sur la forêt par rapport à vous trois. Mais quelles ont été un peu pour mener à bien Ecoterie vos sources d'inspiration?
Moi, j'ai un grand-père qui a été agriculteur et qui, lui, avait cette vieille tradition de planter des arbres pour ses petits-enfants. Voilà. Donc, et puis moi, j'avais aussi ce côté envie d'entreprendre et surtout faire un métier où je voulais rechercher encore plus de sens et plus d'impact en fait. Le cocktail de tous ces le mélange de tous ces ingrédients a fait que l'idée des coteries est justement déjà prenait racine et le fait d'échanger avec Vianney le forestier, de se dire mais voilà, on a tous mis notre temps. Dans des grandes entreprises et autres, on s'est aussi formé, rentrer dans le monde professionnel, c'est aussi l'accès à se former, à apprendre et des métiers. Et on s'est dit, maintenant on a peut-être eu suffisamment de maturité professionnelle pour se dire, ce projet on y croit, ce projet on l'a dans les tripes, et ce projet il faut le lancer. Et pour bien faire les choses, il faut aussi se consacrer à 2000%. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut savoir renoncer. Mmh. Et c'est toujours délicat quand on est bientôt trentenaire de se dire, aujourd'hui, professionnellement, j'ai un certain acquis, j'ai une vie de famille, moi, ce qui était mon cas. Mmh. La partie renoncement,
c'est dur.
Faut savoir dans quoi on s'oriente parce que lancer un projet, ça nécessite de la passion, du temps, de l'énergie. Et puis, tant qu'on n'avance pas, le projet, on ne sait pas où il nous emporte.
Surtout qu'effectivement, on peut peut-être évoquer cet aspect-là. C'est-à-dire que vous avez eu une phase de test, hein, comme exactement. N'importe qui. Et puis après, tu me l'expliquais tout à l'heure sur toute cette phase pour obtenir l'agrément de l'AMF, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu.
Alors, l'agrément de l'AMF, on a un enregistrement, plus précisément, en tant qu'intermédiaire en biens divers, Cet enregistrement dépend de la réforme de la loi Sapin 2 qui cadre ce que l'intermédiation aux biens divers. Et du coup, cet enregistrement, on l'a obtenu en février 2018.
Alors, les biens divers, comme tu disais, effectivement, ça porte bien son nom. Ça va d'arbres dans une forêt à des bouteilles de vin.
Exactement.
Donc, c'est pour ça qu'il y avait un gros micmac.
Sachant que c'était nouveau, on va dire, dans le paysage français. Nouveau l'intermédiation en biens divers parce que l'intermédiation en biens divers définie à partir du moment où on fait de la gestion d'un bien, je la fais courte pour autrui avec un espérance de gain économique, c'est de l'intermédiation en biens divers.
D'accord.
Et c'est là où on est encore aussi dans le cadre réglementaire spécifique à la française, c'est qu'elle vise à protéger de manière générale le consommateur final. On se rend compte qu'en fait, l'intermédiation en biens divers, si on l'extrapole à tous les métiers qui existent en France, en fait, on peut se rendre compte que très vite, tout le monde peut dépendre de l'intermédiation en biens divers. Par exemple, un garagiste qui répare une vieille voiture de collection, à partir du moment où vous lui confiez ce chantier, il fait de la gestion pour vous. La voiture qui va restaurer, elle va prendre de la valeur. Ou même un caviste, par exemple, qui stocke du vieux whisky. Donc cet enregistrement, on l'a eu en février 2018. Et du coup, il vient inscrire dans le marbre et surtout valider tout le modèle économique des coteries, mais tous les aspects juridiques, fiscaux.
Cet enregistrement, finalement, il vient valider effectivement votre modèle économique, mais ça ne veut pas dire qu'Écoterie a commencé, c'est juste une validation de tout ce
Exactement.
Que vous avez fait jusqu'à présent.
C'est par exemple, comme tout, la loi change. Si demain, ou comme on a connu, on te dit qu'il faut un détecteur de fumée ou une norme particulière européenne qui sort ou française qui te dit maintenant la loi c'est ça, la règle c'est ça, c'est le cadre législatif qui évolue tout le temps et pour lequel toutes les structures, les organisations, les entreprises se conforment au fil du temps.
Bien sûr. Oui. Et pourquoi avoir choisi aussi de s'installer en France? Parce qu'on voit beaucoup de projets d'ONG, même d'entreprises, quelles qu'elles soient, qui vont s'installer directement entre les tropiques. Et évidemment, il y a le projet de la Grande Barrière Verte en Afrique, qui est peut-être le plus connu de tous. Mais qu'est-ce qui vous a dit on va s'installer en France, on va gérer ces projets-là sur les forêts françaises.
Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est déjà répondre à un besoin français. On voulait justement, dans ce modèle qu'on propose, rendre accessibles les enjeux et la grande question de la forêt en France. Et pour ce faire, c'est toujours plus pratique quand c'est fait sur le territoire. Et voilà. Donc nous, d'entrée de jeu, on s'est dit, en fait, c'est en France qu'il faut, puisqu'on a rencontré aussi d'autres personnes du monde de la forêt qui nous ont dit, oui, mais il faut aussi plus d'outils en France pour la forêt française. Et donc du coup, il y a une nécessité, et puis il faut des actions à mener sur le territoire.
D'autant plus que, si je ne me trompe pas, on dit souvent que la forêt française n'est pas forcément correctement utilisée parce qu'on va principalement l'utiliser pour des débouchés énergétiques finalement, alors qu'il y a toute une industrie, par exemple pour la construction, etc., qui reste à développer. Ça, c'est aussi un constat que vous avez rencontré.
Bien sûr. Alors ça, c'est dans les étapes d'après, on va dire, dans la chaîne de transformation du bois, où aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire en France. Si on gère bien nos forêts, on aura de plus en plus d'une diversité de bois, et de bois qui peuvent répondre à plein d'objectifs aussi, que ce soit pour le bois de charpente, bois d'ameublement, où aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de notre bois français qui est envoyé en Chine derrière, pour transformation, et qui revient en produit fini en France.
Voilà.
Alors qu'on se dit, peut-être que si toute cette filière, on la structure mieux. Peut-être qu'on pourra transformer beaucoup plus de bois en France, donc avec un impact positif pour l'environnement, parce que ça évite du transport. Puis la logique aussi circulaire de l'emploi, des emplois que ça va générer, et du fait qu'on maîtrise aussi cette chaîne de valeur de bout en bout.
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, les principaux débouchés en France, c'est l'aspect énergétique. Tu l'as évoqué, il y a tout ce qui est ameublement, construction. Est-ce qu'il y a, d'autres applications ou d'autres secteurs qui viennent à l'esprit potentiel?
On va dire après le grand enjeu, il est aussi sur le bois de construction.
Ouais.
Voilà.
D'autant plus que la construction bois est de plus en plus demandée.
Quoi. Et va se développer de plus en plus. Et aujourd'hui, on n'a pas assez justement de bois de construction transformé en France qui permettrait de...
C'est même pas une question de faire pousser. Enfin, ce bois-là existe, mais il n'est pas assez bien identifié.
Si on fait toute la chaîne, il n'y en a pas assez en quantité. Il n'y en aura pas assez en quantité. Et en plus de ça, sur les différentes étapes d'après de transformation, aujourd'hui, on n'a pas la capacité, on va dire, on n'a pas la capacité à le faire. Okay. En France. Alors que pourtant, un tiers du territoire, c'est de la forêt. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des améliorations. Il y a réellement des choses à développer en France sur cette filière, donc forcément sur la forêt en amont et sur tous les autres métiers qui en découlent derrière.
Ouais, avec tous les savoir-faire qu'il faut développer, etc. Donc si on résume un petit peu... L'ensemble des impacts positifs qu'Écoterie génère, c'est déjà l'aspect création de filières économiques avec tout ce que tu viens d'évoquer, avec d'autres débouchés. Et puis, en plus, tout ce qui est ameublement, construction, on le devine assez facilement, c'est des applications à plus haute valeur ajoutée que juste faire pousser du bois pour le brûler.
Bien sûr. Alors que normalement, alors aussi dans certains modèles de gestion forestière,
ouais.
L'idée, c'est d'avoir un objectif, on va dire, bois d'œuvre. Mais il y aura aussi ce qu'on appelle des sous-étages. C'est cette forêt qui sera capable aussi de donc produire du bois d'œuvre majoritairement, mais aussi on va dire du bois d'ameublement et aussi une partie de bois énergie. Donc une même forêt bien gérée
peut faire les trois.
Voilà, sachant que l'objectif final c'est quand même le bois d'œuvre. Mais il y a c'est tout l'enjeu justement du forestier de viser du bois d'œuvre et de se dire en sous-étage. Il pourra y avoir d'autres fonctions sur la parcelle existante, sur d'autres besoins en approvisionnement.
Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, c'est complémentaire en termes d'application, mais aussi c'est complémentaire, j'imagine, en termes de biodiversité,
bien sûr.
De résilience de la forêt.
Bien sûr.
Parce que l'exemple aussi, peut-être tout l'inverse de ce que vous faites, c'est aussi ce qui se passe aussi dans le sud-ouest, au niveau des Landes, où la plupart des forêts sont... c'est un seul type de pin, si je ne me trompe pas.
Ouais, dans les Landes, il y a beaucoup de forêts de pin. Alors, c'est encore une spécificité, c'est que les Landes, il y a l'avancée de la... Il y a des dunes à contenir.
Ouais, tout à fait.
Et en fait, le problème, c'est toute la difficulté. On ne croit pas la difficulté en forêt, mais le principe, c'est de se dire, en fonction du sol, qu'est-ce que tu peux y faire pousser? Et toujours d'associer une nature de sol avec une essence qui peut pousser dessus.
Mais la difficulté, c'est que j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est vraiment presque que de la monoculture. Enfin, moi, je me suis baladé en vélo là-bas.
Oui.
T'entends pas un oiseau, t'as presque pas d'insectes. Enfin, c'est hallucinant parce que là, pour le coup, c'est de la vraie monoculture. Et c'est surtout que ça rend les forêts sur place très fragiles parce que à la moindre invasion, espèce invasive qui débarque, ça arrache tout, quoi. Même pour les tempêtes aussi, ça fait des couloirs de vent.
Ouais, enfin. Ouais. Mais c'est pour ça que tout l'enjeu, nous, sur les projets qu'on reprend, on va toujours avoir une approche polyessence. On va étudier les sols, on va mettre des essences natives ou pionnières. Il y a tout ce travail-là d'études où, quand on lance une plantation, on va réfléchir à mettre en place ce qu'il y a de mieux pour la forêt et donc dans tous ces impacts, donc aspect biodiversité et autres. Voilà.
Excellent. Et j'ai lu récemment aussi votre objectif. Alors aujourd'hui, vous gérez 500 hectares de forêt et que déjà pour la fin de l'année, pour le mois de décembre, vous avez déjà l'objectif de doubler cette surface-là.
Exactement. Alors sachant qu'il y a des temps en amont de pré-étude.
Bien sûr.
Donc on va lancer forcément tous les projets d'un coup.
Vous n'arrivez pas sur le bon coin à trouver hop telle annonce et puis.
En général, il y a un an d'études
à
l'avance parce qu'il faut comprendre l'existant, faut savoir comment ça peut s'intégrer dans notre portefeuille de projets. Donc oui, c'est un objectif. Mais qui passe par beaucoup d'étapes avant de lancer le projet.
Et tous ces hectares sont en France et
exactement.
Alors par contre, c'est une bonne transition vers l'étape d'après, c'est-à-dire vous avez déjà créé un bureau à l'étranger.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi là-dessus ?
Alors, c'est tout frais. L'idée de ce bureau qui s'est ouvert à Copenhague, c'est de pouvoir adresser les enjeux de la forêt française à des pays européens. Donc, permettre, par exemple, demain à des Danois ou des Hollandais ou même des Scandinaves de manière plus large, de se dire, bah, tiens, dans un modèle européen, il y a Ecotree qui propose en France de financer la propriété d'arbres. Et ben moi, acteur européen, je suis sensible à ça et je veux y participer. Et du coup, donner accès à ces gens-là à la possibilité de devenir propriétaire d'arbres sur des massifs en France.
Alors ça, c'est une super idée. Mais alors, par contre, vous avez... Enfin, je sais pas, j'ai peut-être un œil un peu trop naïf, mais vous êtes persuadé que les Européens, ils vont regarder la forêt française, ils seront pas plutôt en demande de dire, bah, Ecotree, c'est intéressant, mais est-ce que vous pourriez pas faire ça chez nous ?
Alors, c'est tout l'enjeu, c'est de tester. On découvre tout ça, on lance tout ça.
Ouais.
Pour l'instant, y apporter des réponses. On n'a pas le retour d'expérience puisque on lance, et bien sûr, ça peut être un écueil. Donc, on en est conscient. Pour autant, on développe le projet avec cette ouverture à l'international. Et puis, l'avenir nous le dira.
Oui, bah, carrément. Et justement, mis à part le développement de ce bureau au Danemark, c'est quoi vos prochaines étapes de développement ? Alors, que ce soit en France ou à l'international, hein, c'est quoi pour toi les prochains gros objectifs ?
Les gros objectifs, c'est clairement, c'est celui qui est majeur, c'est de continuer à développer en France ce qu'on fait.
Donc, quand tu dis développer, c'est avoir plus de surface, c'est avoir exactement. Plus de donateurs, enfin d'investisseurs.
Ou exactement, plus de clients. Hein, faut appeler par leurs termes. Donc, monter plus de projets en France, ça c'est l'objectif majeur. Et donc, tout en permettant aux acteurs français de le faire et à des acteurs étrangers. Et si déjà, on maintient ces objectifs et on les réalise, on sera tous contents.
Voilà. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà une quinzaine de personnes.
Exactement.
Vous avez récemment levé des fonds, j'imagine, pour financer ce développement international. Donc là, vous êtes en ordre de bataille pour avancer, quoi.
Exactement, c'est vraiment ça. Là, c'est maintenir cette feuille de route qui est quand même ambitieuse. Et puis, on verra dans un an et demi... où on en sera.
Okay. Voilà.
L'avenir nous le dira.
Et plus d'un point de vue un peu prospectif, genre, ou même plus large, on va dire, qu'est-ce qui serait un super coup de main pour Ecotree ? Genre, je ne sais pas si tu pouvais glisser à l'oreille d'un ministre ou de quelqu'un qui a du pouvoir. Une bonne idée qui pourrait permettre de bien améliorer votre quotidien et tout ce qui est gestion des forêts françaises.
Il y a déjà des choses qui se passent, qui sont en train de voir le jour en France. Par exemple, il y a un label bas carbone qui sort en France et qui va intégrer dedans les améliorations qu'on peut faire en forêt.
Ok.
Voilà. Donc, c'est une méthodologie qui sort nationale. Et qui va permettre justement d'apporter, permettre de développer plus de projets forestiers en France qui en ont besoin. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il faut comme tout, c'est que
ça aille
plus vite, ça se diffuse et que ça aille plus vite. C'est déjà ça, ce dispositif, si
s'il est validé dans le bon sens.
Il va faire beaucoup de bien à la forêt française.
Ça, c'est une bonne chose. Et est-ce que tu... Enfin, après, donc ça va faire quasiment 5 ans oui. que tu es devenu entrepreneur. Si tu avais des conseils à donner à ceux qui souhaitent se lancer, quels seraient tes 3 conseils pour y arriver ?
Non, mes 3 questions, c'est qu'en fait, c'est très important que cette idée, faut la matérialiser en mode projet. Parce que sinon,
faut tester, faut voir ce qui marche, ce qui marche pas, tous les aspects.
Faut se mettre en mode projet et que très vite, faut s'y consacrer à temps plein. Parce que sinon, ça devient une occupation parmi tant d'autres. Et il y a de fortes choses. Enfin, la phase d'émergence d'une idée qui devient un projet puis une entreprise, ça demande tellement de temps, d'énergie, de ressources qu'il faut être dédié à 100%. Et après, de toujours aussi, je pense, quoi, bien s'entourer. Ça, c'est important. Parce que, en fait, une idée géniale ou un projet génial, il n'a de valeur que si derrière il y a une équipe avec des expertises ou des compétences complémentaires. Donc, en fait, après, on en revient à l'équipe projet qui va porter le sujet. Donc, oui, c'est une idée, une équipe.
Bonne équipe.
Et puis derrière, c'est bête, mais d'en parler autour de soi pour savoir comment bien adresser justement son projet aux bonnes personnes. Nous, quand on a commencé à Écoterie, au début, on pensait faire uniquement s'adresser aux entreprises. C'est en rencontrant des personnes qui nous ont dit « Oui, mais pourquoi à chaque fois on propose que des instruments, des outils, des solutions pour les entreprises et pas pour le grand public ?» De l'air de rien, le grand public, c'est le 1 plus 1 qui fait 3, qui a une force gigantesque, justement, pour des grands projets d'ampleur, tels que les enjeux climatiques. Voilà. Et donc, en fait, on a lancé, du coup, en premier lieu, le site écoterie.fr. Mm-hmm. Et en fait, on s'est vraiment adressé au grand public, voilà, tout en continuant à adresser les entreprises. Et donc, du coup, voilà. Cas très concret, on en a parlé autour de nous, on prend les conseils qu'on entend, ils valent ce qu'ils valent, mais au moins on les écoute, on écoute les idées, les conseils, et puis du coup ça permet de mieux bâtir justement son entreprise. Mm-hmm. Se dire, c'est pertinent, puis le but c'est que ça marche.
Hein. Bien sûr.
Voilà. C'est que ça marche, un peu les conseils que je dirais. Donc, est-ce que j'ai dit les trois ?
Tu as dit
se mettre à 100%.
Une bonne idée, mais surtout la concrétiser effectivement à travers un projet. Une bonne équipe avec des compétences complémentaires. Et puis le fait de rapidement en parler autour de soi pour valider un peu l'idée, quoi.
Ouais, je pense que c'est... ça me paraît...
Ça te paraît clair.
Ça me paraît clair. Sensé.
Ok, cool. Est-ce que tu as... T'as d'autres choses à ajouter ? Est-ce que tu as peut-être un appel pour ceux qui ne connaissaient peut-être pas Écoterie avant d'écouter cet épisode, de dire, qu'est-ce que tu les appelles à faire ?
De se dire, nous, Écoterie, on existe. Notre métier, c'est de répondre aux enjeux, de tenter de répondre aux enjeux de la forêt française, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de surfaces forestières en France, donc ce n'est pas nous seuls qu'allons arriver à tout porter. Ça peut être qu'une initiative aussi collective et collaborative, parce qu'on sait que les grands changements qui se font depuis la nuit des temps, ils se portent à plusieurs. Que nous, on trouve que c'est face aux enjeux climatiques et finalement les comptes qu'on aura à rendre vis-à-vis des générations futures, la forêt est un des leviers, mais parmi tant d'autres, faut pas se leurrer.
Ouais, mais c'est déjà un bon levier avec qui effectivement peut répondre en partie à ce que tu dis sur le dérèglement climatique, mais aussi sur ce que tu as évoqué, la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc.
Tout ça. Voilà. Le projet, il se veut pédagogique, parce qu'aujourd'hui aussi, on donne beaucoup d'informations, on sensibilise beaucoup de gens à travers la forêt sur des grandes questions que le monde et l'humanité a apportées. Donc, n'hésitez pas à nous découvrir. Nous, on est toujours contents, en fait. Notre blog nous fait remonter plein de questions. On apporte plein de réponses.
Vous avez une super newsletter aussi.
Voilà, on essaye d'apporter du contenu simple et accessible à tous. On parle de nos projets, on parle de ce qui se passe en forêt, on parle on aborde plein de discussions qui sont passionnantes. Et du coup, on a des gens comme ça qui peuvent être sensibilisés par ce biais-là. Et du coup, on les invite à se former, à comprendre.
Le site, c'est
écoterie.fr.
Ok. Écoute, Baudouin, un grand merci pour cet entretien.
Merci à toi.
J'en profite aussi pour vous remercier parce qu'il y a quelques semaines, on a passé les 10 000 écoutes après un an de podcast, donc c'est...
C'est une belle performance, hein.
Ouais, on est content sur un sujet de niche comme ça.
Ah non, c'est même exceptionnel, hein.
Non, j'irai pas jusqu'à
non,
là.
Non, mais pour un sujet, justement, sur un thème aussi spécifique et...
Mais tu sais, on n'est pas au début de la création de contenu parce que, enfin, je divague là, mais Wita, on existe depuis 7 ans et effectivement, on a fait pas mal de présentations, on a fait des livres, etc. Donc, le podcast, c'est un super moyen de rencontrer des gens avec des super parcours comme toi et de les mettre en avant. Et puis, tu vois, même, je trouve ça génial parce qu'on en apprend à chaque fois. Et effectivement, ça plaît, donc on est content.
Ah, bah bravo.
Merci, merci. Et puis, bah, bonne continuation à toi, Baudouin.
Bah oui, puis de toute façon, on sera amené à se recroiser.
Avec grand plaisir.
Très certainement.
Allez, ciao, ciao.
Ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.